Mélomanie. Mélomanie, le rendez-vous des mélomanes, une émission proposée et animée par Éric Dupri.
Bienvenue à l'écoute de Radio Présence et de Mélomanie pour le premier numéro 2024 de votre magazine de l'actualité musicale classique toulousaine et régionale. J'en profite pour vous souhaiter à tous une très bonne année, santé et réussite, et bien sûr beaucoup de beaux moments, de grands moments de musique à Toulouse et dans notre région. Ils ont été nombreux en 2023 et soyez certains qu'ils le seront encore en 2024. Cette émission est là pour vous les annoncer et vous les présenter, ce que nous allons faire de nouveau aujourd'hui avec mon ami Serge Chauzy, cofondateur et rédacteur du site Classique Toulouse, chroniqueur pour le site Culture 31 et le journal La Voix du Midi. Pour ce premier numéro et cette première semaine de l'année, l'actualité des jours à venir est assez maigre, dans la mesure où les vacances scolaires sont toujours en cours. Beaucoup d'institutions musicales font relâche durant cette période. Il faut bien que les musiciens prennent aussi des congés de temps à autre afin de nous revenir en pleine forme ensuite. Heureusement, il y a eu quelques concerts fin 2023, ce qui nous donne matière à notre habituel retour sur l'actualité récente. C'est parti pour le premier retour arrière 2024.
Mélomanie, retour arrière.
Bienvenue et bonne année à vous aussi Serge, tous mes voeux pour 2024.
Merci, tous mes voeux également pour vous cher Eric.
Le premier concert sur lequel je vous propose de revenir a été donné le 20 décembre à la Lograin, dans le cadre du cycle des grands interprètes. On a pu y entendre le chœur Accentus et l'Insula Orchestra sous la direction de leur fondatrice, Laurence Equilbet. Il y avait une seule œuvre au programme, Le Messie de Georg Friedrich Händel. Serge, qu'avez-vous pensé de l'interprétation de ce monument de la musique sacrée ce soir-là, puisque bien entendu vous y avez assisté? Rappelons qu'il y a trois parties.
Oui, exactement. Puis rappelons aussi que c'est une tradition relativement récente de le donner à l'époque de Noël, alors qu'il a été créé avant Pâques, juste à l'époque de Pâques, à Dublin d'ailleurs, pour un gala de charité. C'était le 13 avril 1742. Il y a toute une histoire, évidemment, de ce Messie, qui est finalement l'oratorio des oratorios, du plus britannique des compositeurs allemands. C'est vraiment une œuvre qui sort du lot, exactement. Alors donc, nous avions la chance de recevoir Laurence Equilbet, et effectivement, comme vous l'avez dit, c'est elle qui a créé les deux ensembles, ensemble vocal et instrumental, qui faisaient partie du concert. C'est en 1991 déjà qu'elle a créé l'ensemble instrumental Insula Orchestra. Non, pardon, le chœur d'abord. Le chœur Accentus.
Accentus en premier.
Le premier en 1991. Et ce n'est qu'en 2012 qu'elle a fondé l'ensemble instrumental appelé Insula Orchestra, un ensemble qui joue sur instruments d'époque avec le jeu historique, je mets des guillemets, que cela signifie donc, et elle est très favorable à l'utilisation de ces instruments de l'époque ou des copies des instruments de l'époque de Händel pour jouer sa musique. Ça a été vraiment un grand moment. Là, je dois dire que ça a été un très, très grand concert qui commençait par l'ouverture, en quelque sorte, qu'elle a dirigée avec une énergie pleine de joie. Elle a insufflé à tous ses interprètes, que ce soit le chœur, l'orchestre ou les solistes, une ferveur constante, vraiment, avec un très beau choix de phrasés dynamiques, les phrasés dits baroques, hein, puisque quand même Händel, qui est, je le rappelle, un contemporain exact de Jean-Sébastien Bach, c'est vraiment l'un des deux compositeurs.
Donc c'est les deux géants de l'époque, on peut dire.
Voilà, baroque, exactement. Hein, les deux
de cette fin du baroque, en tout cas, de cette fin de deuxième moitié du baroque.
Exactement. Alors, c'est une œuvre copieuse, hein, longue, mais il y a eu quand même quelques coupures dans la partition et qui ont un peu réduit la durée de cette exécution. Au lieu de 2h30 d'habitude, on a eu 2 heures de musique. Mais enfin, on avait l'essentiel et donc c'était vraiment un très beau moment. Alors, la première partie, qui est consacrée aux prophéties, à l'annonciation et à la nativité, s'est ouverte, comme c'est écrit, par une intervention du ténor. Alors, le ténor était le britannique Stuart Jackson, un vrai colosse qui a une voix d'ange. Ça fait un contraste incroyable, mais vraiment avec une extrême sensibilité de sa déclamation. C'était très très beau. Et tout de suite après, a eu lieu la première intervention du contre-ténor, un Français, Paul-Antoine Benos-Djian. Alors là, ça a été, je dois dire pour moi, la révélation de la soirée. Un grand, grand chanteur, avec d'une part un timbre magnifique, très rond, très bien projeté, un ambitus sans aucune difficulté de l'aigu au grave, un art de la déclamation, une qualité à la fois de timbre, mais aussi de phrasé, vraiment exceptionnelle. Toutes ces interventions était un grand moment au cours de ce concert. Et puis alors, on a pu constater à quel point ce grand chanteur s'est adapté son chant au caractère de chacun de ses airs, chacune de ses interventions. Donc, il faut retenir ce nom. Alors, au milieu de cette première partie, il y a une pastorale purement instrumentale qui est le cœur sensible de cette première partie. Et donc, c'était très touchant, très beau. Et on a retrouvé cette tendresse dans la subtilité et le style de la soprano bien connue, elle, Sandrine Pio. Alors, on connaît ses qualités de fraîcheur vocale, d'intelligence. Et lorsque, à la fin de cette première partie, on a eu un duo entre la soprano et le contre-ténor, alors là, on peut dire que le paradis était très proche. Et donc, c'était comme ça que s'est terminée cette première magnifique partie.
Eh bien, après ce retour sur cette première partie, je propose que nous écoutions un premier extrait du Messie de Handel dans une version du chœur Accentus dirigé par Laurence Equilbet. C'est un air très célèbre que l'on entend vers le milieu de la première partie, For unto us a child is born.
Child is born.
Foreign to Us a Child is Born, un des chorales les plus connus du Messie de Handel, dans une version du chœur Accentus dirigée par Laurence Equilbet. Alors il y avait évidemment deux autres parties. Bon, vous avez été ébloui, semble-t-il, aussi par les deux parties qui ont suivi.
Ah oui, mais surtout dans la deuxième partie, donc, qui illustre en quelque sorte le drame qu'est la Passion du Christ, hein. Et donc, dès le premier chœur, on est vraiment dans le drame, la manière dont Laurence Equilbet le dirige, avec une tragédie qui est en train de se dérouler. Et puis surtout, arrive l'air « He was despised, rejected », c'est-à-dire il fut méprisé, rejeté, qui, ce soir-là, constitue vraiment le grand moment du concert. C'est chanté par le contre-ténor, encore une fois, Paul-Antoine Benoît-Diant. Je tiens à répéter son nom, parce que c'est un nom qu'il faut absolument retenir. Alors il en fait une sorte de lamentation bouleversante grâce à un timbre qui devient un timbre blessé et puis un art intime de la vocalise qui la déploie sans exagérer la virtuosité évidemment et jusqu'au poids des silences. Il ménage quelques silences, on retient sa respiration, on n'ose plus respirer ni émettre le moindre son évidemment. Là vraiment, dans cet air, il est difficile de retenir ses larmes. Hein. C'était quelque chose d'exceptionnel. Et alors, ensuite, on a eu droit de nouveau à des interventions du ténor, avec beaucoup d'émotion. Et puis la basse australienne, qui était déjà intervenue dans la première partie, qui s'appelle Alex Rosen. Alors, un air impressionnant, avec un timbre très riche, et surtout une perfection de l'art de la vocalise. Son air « Why do the nations ?» c'était éblouissant. Et enfin, évidemment, cette partie s'est achevée sur l'emblématique « Alléluia », bien sûr, avec une ferveur particulière, vraiment incandescente, qui a déferlé dans la salle, dans la halle au grand. Et puis enfin, la troisième partie, qui est la plus courte de l'œuvre, et puis celle qui a probablement subi le plus de coupures. Elle conclut cette fête comme une réflexion sur le rôle rédempteur du Messie. Et alors, une dernière intervention de la soprano, pleine de lumière, précède celle de la basse dans un des airs les plus martiaux de la partition et qui s'appelle « The Trumpet Shall Sound ». Donc la trompette va sonner. Et là, comme il se doit, donc, le soliste, la basse, est accompagné, si l'on peut dire, par la trompette solo qui joue un rôle fondamental. C'est un passage redoutable pour la trompette, surtout la trompette naturelle, hein, sans piston. Donc. Et là, il faut reconnaître l'excellence de Serge Tizac, qui est un trompettiste toulousain, qui a vraiment joué ça avec panache. Bravo, il a fait jeu égal avec la basse, avec un jeu d'une grande précision et d'un bel éclat. Et enfin, le dernier chœur, Worthy is the Lamb, suivi de l'amen final. Alors là, ça a atteint les cimes d'une espèce d'ardeur musicale qui a parcouru toute l'interprétation suscitée vraiment par Laurence Equilbet, qu'il faut remercier et féliciter pour la manière dont elle a dirigé cet oratorio.
Le concert a été très long, comme vous l'avez indiqué. Bon, 2 heures au lieu des 2h30, mais 2 heures tout de même.
Plus l'entracte, puisqu'il y a quand même un
entracte. Oui, il y a l'entracte, c'est vrai.
Et pourtant, il y a eu un bis. Alors, un bis plutôt attendu, je dois dire, puisque ce bis était un retour de l'Alléluia, dont une partie du public a chantonné les accents.
Alors, c'était fait pour ça, sans doute, un peu.
À la magie à opérer, là, vraiment.
Eh bien, je ne vais pas être original non plus pour conclure ce retour sur le concert du chœur Accentus et de l'Insula Orchestra, puisque je vais vous faire écouter ce fameux Alléluia à la toute fin de la deuxième partie du Messie de Handel. Et c'est aussi une version enregistrée par le chœur Accentus.
Oh,
le très célèbre Alléluia du Messie de Handel dans une version du chœur Accentus dirigé par Laurence Equilbet. Vous noterez que le prochain concert de la saison des grands interprètes a lieu le 6 février à la Lograin et ce sera du jazz avec le duo formé par le contrebassiste Avishai Cohen et le pianiste Makoto Ozone. Deux jours plus tard, en cette période de concert de Noël, la maîtrise de Toulouse se produisait à la basilique Saint-Cernin devant une assistance très fournie puisqu'il ne restait plus une seule place de libre à la direction Marc Hopstadt, à l'orgue Michel Bouvard et dans le public Serge Chosy. Je sais que vous êtes un grand fan de la maîtrise, Serge, et vous avez bien raison de l'être. Est-ce que vous êtes régalé lors de cette soirée spéciale chant de Noël?
Eh bien oui, ce n'est pas surprenant. Il faut quand même rappeler que cette maîtrise de Toulouse a été créée en 2006 au sein du conservatoire de Toulouse par son fondateur anglo-français, c'est comme ça qu'il se présente, Marc Hopstadt, qui est vraiment un expert en la matière. Évidemment, on sait que le Royaume-Uni était vraiment la patrie des maîtrises. Et donc là, avec cette maîtrise, il a fondé la première structure de ce type dans tout le sud-ouest de la France. Hein. La qualité de cet ensemble vocal est indéniable, à la fois sur le plan des timbres, des équilibres entre les divers registres, et puis de la diction. Il est très exigeant, Marc Hopstadt, et comme il a raison, et malgré
ou à cause... On voit le résultat, en tout cas.
À cause de ça, eh bien, tous ces choristes l'adorent, donc ça se passe vraiment formidablement bien. Et rappelons que cet ensemble vocal a obtenu le prestigieux prix Liliane Bettencourt pour le chant choral en 2017. Donc, oui. Voilà pour cet ensemble magnifique. Et puis, à l'orgue, il y avait Michel Bouvard, bon, qui mène quand même depuis 30 ans une double carrière de concertiste et de professeur. Et c'est celui qui connaît le mieux l'orgue Cavaillé-Coll de la basilique Saint-Cernin, puisqu'il en est
le titulaire.
Le titulaire, hein. Donc, ces deux entités, en quelque sorte, associées comme ça, eh bien, ont donné un très beau concert avec des œuvres très variées, très diverses.
Que des chants de Noël ou pas seulement?
Ah non, pas seulement, hein, pas seulement, hein. Puisque l'arrivée des choristes de la maîtrise, elle s'est faite en procession. Et pendant la procession, ils chantaient. C'était un chant grégorien qui était au programme. Vraiment un grand moment. Et puis alors, les maîtrisiens sont appelés au cours de ce concert à processionner, on peut dire, du fond de l'église, sous l'orgue donc, vers le chœur, en fonction des pièces présentées. Donc c'est très varié. Et alors les œuvres, il y a des œuvres a cappella et des œuvres accompagnées par l'orgue qui alternent avec quelques partitions pour orgue seul. Donc le programme a révélé de très belles pièces, habilement complémentaires quant à leur style et leur contenu festif. Alors après ce chant grégorien, eh bien, on a eu droit à de splendides motets de Samuel Scheidt, Matteo Fletcher et Thomas Wilkes, grand compositeur de la Renaissance. Là, le chœur était tout à fait à l'aise, vraiment. Il l'a été tout au long de la représentation, évidemment. Et ensuite, nous avons eu droit au graduel Virga Jesse Florilt, composé par Anton Bruckner. On a fait quelques sauts dans l'histoire de la musique puisque la pièce date de 1885. Finalement, en dépit du grand écart temporel, il n'y avait aucune rupture de style qui ne venait perturber la continuité en fait, de l'expression. Et puis on retrouvait ses qualités de précision des attaques, de la diction, la justesse, l'équilibre, le subtil mélange que le chef obtient entre l'éclat et la douceur. Donc, un grand moment. Et puis, on a eu droit à une série de trois Noëls anglais contemporains qui se succèdent. Alors, ils sont signés de compositeurs qu'on ne connaît pas forcément, en tout cas les deux premiers, Betty McGlade et Andrew Carter, mais le troisième de ces compositeurs n'est autre que Marc Hopstadt lui-même.
Et pourquoi pas?
Donc, il perpétue là une tradition séculaire d'une grande qualité musicale. Ensuite, on a eu pas moins de 5 Noëls français traditionnels, accompagnés par le grand orgue d'ailleurs, et chantés dans des harmonisations nouvelles, dont 4 d'entre elles sont dues à Marc Hopstadt encore. Donc, vous voyez le travail que Marc Hopstadt fait. Là, alors, il y avait notamment Noël Nouvelé, Quitter ses Noëls, J'ai vu 3 bateaux sur la mer. 3 bateaux sur la mer, c'est une œuvre qui était signée de Jean Bouvard, le grand-père de Michel Bouvard, donc qui était organiste lui-même et compositeur. Bon, on a eu droit à de très beaux moments, avec notamment, après le choral de District Buxtehude, Puer Natus in Bethlehem, eh bien, on a eu droit à une méditation intitulé « Les enfants de Dieu », mais j'y reviendrai, d'Olivier Messiaen, et puis un Noël basque de Jean Bouvard, de nouveau. Donc, ultime procession, le chœur et l'orgue se sont lancés alors dans une déclamation un peu jazzy, d'ailleurs, d'un choral intitulé « Nova Nova » et composé par le Britannique Ian Farrington, qui est né en 1977, un compositeur d'aujourd'hui, un compositeur qui a d'ailleurs animé musicalement le récent couronnement de Charles III.
Eh bien tiens.
Donc, vous voyez, on se prive de rien. Et donc, c'était sur un texte anglais du 15e siècle, cette pièce jazzy, un bis en quelque sorte, pratiquement programmée. Donc vraiment, un très grand moment là aussi.
Et pour illustrer tout ce que vous venez de dire, tout le bonheur que nous donne la maîtrise de Toulouse à chaque concert, voici un extrait de leur programme du 22 décembre à la Basilique Saint-Sernin, Noël Nouvelet. Noël Nouvelet, un extrait du CD Noël français enregistré par la maîtrise de Toulouse en 2015 sous la direction de Marc Hopstadt, et donc un extrait du concert qu'elle a donné le 22 décembre à Saint-Sernin, accompagné à l'orgue par Michel Bouvard, qui lui aussi a joué beaucoup de morceaux en soliste. Alors à ce propos, Serge, ouais, quelle pièce a interprété Michel Bouvard? Il y en avait beaucoup aussi.
Ah, il y en avait beaucoup, oui, oui, oui. Dès le... à la suite du chant grégorien d'entrée du chœur, il a joué deux danseries de Claude Gervaise, un des grands compositeurs de la Renaissance, et un tambourin de Michel Corrette, plus récent, donc c'est du 18e siècle. Voilà ce qu'il a joué en entrée. Et puis ensuite, à la suite du motet de Samuel Scheidt, chanté par les choristes qui étaient disposés sous l'orgue, là, il a enchaîné avec un choral de District Buxtehude qui s'appelle Puer Natus in Bethlehem, vraiment dans la lignée de l'œuvre de Scheidt. Et puis ensuite, on a eu droit alors à une pièce un peu particulière, puisqu'une pièce signée Olivier Messiaen. Olivier Messiaen, je rappelle, qui est mort en 1992 et qui était un fervent mystique, on peut dire. Hein.
C'est le moins qu'on puisse dire.
Ah oui, oui, oui. Il a écrit tout un recueil qui s'appelle La Nativité. Et donc, Michel Bouvard a joué un extrait de ce recueil qui s'appelle Les Enfants de Dieu, avec des séries d'accords vraiment impressionnantes, avec certains qui simulent les cris de joie à l'arrivée du Christ. Donc, un très beau moment aussi que cette pièce pour orgue seul. Et ensuite, donc, comme je l'ai indiqué, il a joué de son grand-père Jean Bouvard les variations sur un Noël basque, une pièce très solennelle, vraiment, et alors qui fait briller l'orgue, le magnifique orgue, rappelons-le, Cavaillé-Colle de Saint-Sernin. Donc. Et puis, il est revenu à une œuvre de son grand-père vers la fin, à l'œuvre dont j'ai parlé déjà tout à l'heure, J'ai vu trois bateaux sur la mer. Très beau chant, en quelque sorte, mais joué à l'orgue.
Eh bien, puisque vous avez évoqué les pièces de Jean Bouvard, son grand-père, que Michel Bouvard a joué le 22 décembre à Saint-Sernin, on va en écouter une. Nous allons écouter les variations sur un Noël basque. Variation sur un Noël basque, c'est la seconde variation de cette pièce composée par Jean Bouvard et jouée ici par Michel Bouvard, son petit-fils. Voilà donc pour ce concert de Noël de la maîtrise de Toulouse, accompagné à l'orgue par Michel Bouvard. Autre tradition de la fin de l'année, bien sûr, le concert du Nouvel An de l'Orchestre National du Capitole à la Halle aux Grains. Il y a eu 3 séances, comme c'est le cas depuis quelques années maintenant, mais pas le 1er janvier, assez curieusement, puisque ce concert a été donné les 29, 30 et 31 décembre. Sa direction et la composition du programme avait été confié pour la première fois à Hervé Niquet, qui avait déjà dirigé les concerts de Noël du chœur du Capitole. Il avait reçu une carte blanche pour ça et le programme avait été tenu soigneusement secret auparavant. Alors Serge, quel menu nous a servi Hervé Niquet pour passer de 2023 à 2024?
Ah oui, il s'agit vraiment d'un menu hein, en 4 plats. Mais alors, je voudrais quand même dire que Hervé Niquet est un showman. Hein.
Oui, ça.
Donc il a présenté.
Il aime faire le spectacle.
Il a évidemment présenté le concert. Mais il y a participé à la fois physiquement, en s'adressant à la salle, en s'adressant aux musiciens, en commentant les performances de ces musiciens et à l'occasion en racontant sa vie. Vraiment, on a eu droit à un vrai festival avec ses 4 chapitres, donc, avec un premier chapitre qu'il a intitulé « Paris, le ballet et Sacha Guitry ». Alors, pendant cette première partie, on a eu droit à 2 airs chantés par une soprano qui était là, Émilie Rose Brie. Elle a chanté, alors vraiment des airs tout à fait en situation, puisque le premier air qu'elle a chanté, c'est extrait de la Péricole, c'est « À quel dîner je viens de faire ?»«
Et oui, c'est
je suis
choisi.
Un peu grise ». Donc, vous voyez que c'était en situation absolue de réveillon, à l'avance. On a eu droit également à un autre air d'André Messager, donc extrait de L'amour masqué, J'ai 2 amants. Voilà, un air très connu et très ironique qui a fait s'esclaffer la salle, évidemment, puisque j'ai 2 amants et je fais croire à l'un que l'autre est l'homme, c'est le sérieux. Enfin bon, c'est plein d'ironie.
C'est un peu boulevardier, évidemment.
Ah, complètement boulevardier, oui, oui. Et puis ensuite, le deuxième chapitre était intitulé, là aussi, l'esprit de Hervé Niquet, « À Vienne que pourra ». Donc, c'était de la musique viennoise, évidemment, avec essentiellement la dynastie Strauss. Alors, avec quelques pièces intéressantes, mais que l'on connaît bien et qui, en général, font partie des concerts de Nouvel An de Vienne, hein, de la Philharmonie de Vienne. Il y avait « Unter Donner und Blitz », c'est-à-dire sous l'éclair et le tonnerre, et puis la fameuse marche de Radetzky, que toute la salle applaudit, évidemment.
Oui, qui conclut chaque année le concert du Nouvel An à Vienne.
Absolument. Mais il y avait également un air de Franz Lehár, donc c'était assez copieux, même si le concert n'était pas très long, c'était à peu près une heure et demie.
C'était très dynamique.
Très dynamique.
Il fallait que ça
vraiment,
soit, d'ailleurs.
Oui. Alors ensuite...
On va faire, si vous permettez, un premier arrêt avant de parler des troisième et quatrième parties. Donc au programme de ces concerts du Nouvel An donnés par l'Orchestre du Capitole sous la direction d'Hervé Niquet, il y a eu en première partie beaucoup de musique française, de l'opérette, mais aussi des raretés, comme par exemple cette joyeuse marche d'Emmanuel Chabrier, que je vous propose d'écouter dans une version de l'Orchestre National du Capitole, mais époque Michel Plasson. La bien nommée Joyeuse Marche, pièce d'Emmanuel Chabrier dans une version de l'Orchestre National du Capitole enregistrée en 1987 sous la direction de Michel Plasson, un CD paru à l'époque sous le prestigieux label EMI. Et donc, on a eu une première partie musique française de la belle époque, une deuxième partie Vienne, et puis troisième partie, on est revenu en France, mais... Oui. De la chanson.
Exactement, chanson française avec des œuvres de Roger Roger, d'Henri Betti, d'Edith Piaf, La vie en rose, mais oui. Et puis, alors, un extrait de L'auberge du cheval blanc de Raph Benatsky, qu'Hervé Niquet a chanté lui-même.
Et il est chanteur à la base.
Mais bien sûr, mais avant de chanter, il a changé de veste. Il a ôté sa veste noire pour enfiler une veste bigarrée. Et il a chanté, extrait de L'auberge du cheval blanc, « On a le béguin pour Célestin ». On a le béguin pour ses chaussettes, etc.
Oui.
Donc là, c'était vraiment...
Là, il s'en est donné à cœur joie.
Ah oui, là, il s'est donné là à fond. Et puis, la dernière partie, la quatrième partie, c'était Hollywood, New York, Londres, sur grand écran. Et donc, c'était des musiques de films, essentiellement. Et ce plat final, ce dessert, en quelque sorte, s'ouvrait sur l'indicatif de la 20th Century Fox, donc ce qui était particulier, mais qu'il avait modifié pour ne pas avoir à payer de droits d'auteur, a-t-il dit. Donc voilà.
Il est malin en plus.
Ah oui, très malin.
Il pense à tout.
Et puis on a eu un extrait de Gustav Holst, des planètes, c'était la planète Jupiter, et puis quelques extraits de Leroy Anderson, avec d'abord une pièce qui s'appelle Fiddle, donc pour le violon, qui est vraiment très... pointue pour les pupitres de violon, et puis une autre pièce alors rarissime, The Typewriter, c'est-à-dire la machine à écrire, que l'on connaît à partir d'un film dans lequel joue Jerry Lewis.
Ah oui, son fameux sketch de la machine à écrire.
Exactement, un chef de rayon explosif. Oui. S'appelle en français le film. Et donc, on a apporté au premier rang une machine à écrire. Et c'est le Thibaut Buchaillet, qui est l'un des percussionnistes de l'orchestre, qui est venu, qui s'est mis au clavier de la machine et qui a joué en soliste cette pièce.
Et qui s'est mis dans la peau de Jerry Lewis.
Ah oui, dans
la peau
de Jerry Lewis.
Pour ceux qui connaissent ce fameux sketch qu'on voyait en France, d'ailleurs, parce que Jerry Lewis était beaucoup plus apprécié en France qu'aux États-Unis.
Exactement, exactement. Parce que ça existe hein, sur Internet, on peut retrouver
la séquence. Ah oui, le sketch de la machine à écrire.
Et c'est vraiment très amusant. Ouais. Mais c'est pointu sur le plan du rythme.
Ah,
hein,
oui.
Et donc, bravo au percussionniste qui a parfaitement joué son rôle. Et puis donc, on a eu droit de nouveau à une intervention de la soprano, ou le Wonderful de Gershwin, George Gershwin, bien connu. Et puis, le spectacle s'est achevé sur The Stars and Stripes Forever, c'est-à-dire l'hymne américain de John Philip Sousa, qui terminait ce concert, qui a eu un succès fou. Évidemment, la salle était archi-comble. Hein. Et donc, c'était le 29, hein, le concert auquel j'ai assisté. Parce que je suppose que pour les deux autres, il y a peut-être eu quelques petits changements.
Petites nuances, variations, c'est possible.
Petites nuances, bon. Et puis, on a eu droit à un bis. Il a redonné, il a redirigé de nouveau Unter Donner und Blitz de la dynastie.
Bon, apparemment, tout le monde s'est bien amusé.
Ah oui,
les musiciens, le chef et le public, c'est ce qu'il fallait. Et
exactement.
Il y avait dans ce programme du Nouvel An de l'Orchestre du Capitole à la Lograin un extrait des Planètes de Gustav Holst. C'était celui dédié à Jupiter que nous allons pouvoir écouter maintenant dans une version de l'Orchestre National du Capitole, dirigé cette fois-ci par Nicolas Colonne. Jupiter, extrait des Planètes de Gustav Holst, dans une version de l'Orchestre National du Capitole, dirigé par le Britannique Nicolas Colonne. C'était en 2016 à la Lograin. Fin de cette première partie d'émission, quelques secondes de pause et l'on retrouve Serge Chosy pour notre rubrique Agenda. Restez bien à l'écoute de Radio Présence. A tout de suite.
Mélomanie. L'agenda.
L'agenda de Mélomanie avec Serge Chosy et nous allons le commencer en parlant de musique électro-acoustique, un genre que nous abordons très peu à Mélomanie. Et tout récemment, le chœur Les Éléments a fait paraître un CD sous le label Éole, consacré à une pièce du compositeur contemporain Guillaume Hermen. Ce CD a pour titre Walden Voices. C'est une œuvre mixte pour deux voix de femmes et dispositif électro-acoustique. Voilà qui mérite quelques explications, d'une part sur le titre et d'autre part sur la composition de cette œuvre. Mais d'abord, il faut indiquer que c'est un projet 100% toulousain, puisque si l'on sait déjà que le chœur Les Éléments et le studio Éole sont basés à Toulouse, ou plutôt en résidence à Audi-Sud Blagnac pour être précis, Guillaume Hermen est aussi un Toulousain de fraîche date, dans la mesure où il a repris la classe de composition électroacoustique au Conservatoire à rayonnement régional de Toulouse, après la retraite de Bertrand Dubedoux, Serge.
Oui, absolument. Bertrand Dubedoux, l'un des deux fondateurs de Éole. Donc le collectif Éole qui fait énormément pour la musique d'aujourd'hui et donc il faut saluer vraiment cet album en question est très particulier qui vraiment réunit, comme vous venez de le dire, un ensemble d'institutions enracinées dans la région ou à Toulouse et c'est quand même à l'initiative de Joël Subiette qui est le fondateur des éléments de l'ensemble vocal, le chœur de chambre Les Éléments qui a été désigné en 2019 par le ministère de la Culture comme centre d'art vocal pour la région Occitanie.
Et oui, il y en a 5 en France et Les Éléments est un des 5.
Les Éléments est un des 5. Donc, ils ont choisi Guillaume Hermen. Tout simplement, ce choix a été motivé par, d'une part, la qualité de son écriture, sa connaissance aiguë de l'électroacoustique et pour des expériences de création impliquant des jeunes publics. Il fallait absolument qu'il y ait ce mélange. Ça a été soutenu par un ensemble d'institutions auxquelles il faut associer donc évidemment le studio Éole, toujours en pointe sur la musique actuelle, le Parvis, celle nationale de Tarbes, Audi-Sud Blagnac, bien sûr, et les conservatoires de Montpellier et de Blagnac, qui ont mis, si l'on peut dire, à disposition du compositeur, les élèves de leur classe de conservatoire.
Il y a vraiment une dimension régionale aussi dans ce projet.
Ah oui, complètement,
clair.
Absolument. Et donc, le choix de Guillaume Hermen s'est porté sur l'écriture d'une bande préélaborée, une bande magnétique, à laquelle se superposent des parties vocales vivantes, en quelque sorte, hein, pour deux solistes issus du chœur Les Éléments, la soprano Cécile Dibon-Lafarge et la mezzo-soprane Corinne Bahuot. C'est une œuvre polyphonique, vraiment, au plein sens du terme, et électroacoustique, dont le contenu de la bande est en elle-même polyphonique. Plusieurs sources musicales ont été captées dans les écoles, des conservatoires, des chorales de villes et de villages d'Occitanie, donc comme ingrédients en quelque sorte de la bande magnétique. Et puis il y a un support littéraire, bien entendu.
Alors ça, je disais, il va falloir qu'on donne quelques explications, parce tout le monde ne connaît pas Walden ou La vie dans les bois, donc cette œuvre de l'écrivain américain Henri David Thoreau, œuvre parue en 1854.
Exactement.
Alors, c'est une œuvre et c'est un auteur qui sont devenus cultes hein, dans la mouvance écologiste et de manière générale, culte pour tous ceux qui prêchent la décroissance et la sobriété, sans parler d'une certaine forme de retour à la nature, parce que c'est là le cœur du sujet.
Bien sûr, bien sûr. Cette œuvre littéraire de Thoreau, c'est une réflexion, en quelque sorte, du philosophe sur l'économie, la nature et la vie simple, menée à l'écart de la société, et donc ça a inspiré au compositeur une sorte de méditation en 8 parties qui reprennent quelques-uns des 18 chapitres, en fait, du récit original. Et donc, il y a une série de chapitres. Le premier, Économie, qui s'ouvre sur un murmure évocateur. On a l'impression d'une confidence, un échange entre les voix solistes qui occupe la deuxième étape, qui est intitulée « Where I lived and what I lived for », c'est-à-dire « Où je vécu ». Et ce pourquoi j'ai vécu.
Ce pourquoi je vis, oui.
Voilà. Et la troisième étape, c'est une sorte de pluralité vocale sur une tenue immuable d'un accord, c'est impressionnant, avec les jeux effervescents de voix d'enfant qui caractérisent le quatrième épisode, lui, Sounds, c'est-à-dire son. Alors, certains de ces passages sont curieusement suivis d'un grand silence. interrogateurs, pas tous, mais certains, il y a un grand silence, comme si le compositeur et le philosophe nous disaient « réfléchissez à ce que vous venez d'entendre ».
Oui, puis il faut répéter encore une fois que le silence fait partie de la musique. On ne peut pas aimer la musique si on n'aime pas le silence, c'est
mais
pas
évidemment,
possible.
Évidemment.
Et
oui,
les silences
absolument.
En font partie. Alors, peut-être précision, Walden, c'est le nom d'un étang qui se trouve dans l'état du Massachusetts, près d'une ville qui s'appelle Concord, hein, pour ceux qui ne connaissent pas ce qu'est mon cas d'ailleurs. Oui. Et en fait, Thoreau, pendant 2 ans, 2 mois et 2 jours, soyons précis, il s'est éloigné de sa famille et il s'est établi tout seul dans une cabane dans la forêt près de cet étang de Walden. Et vous avez cité un des titres, quatrième morceau, le titre c'est Sounds, son. Et vous allez écouter, vous allez voir, ce sont les sons, le son de la forêt, les sons de la nature, notamment les chants d'oiseaux. Écoutez ça. Voilà, extrait donc de Sounds, son, qui est le quatrième morceau de Walden Voices. Et là, on voit le cœur vraiment de l'œuvre de Thoreau et le cœur aussi de l'œuvre qu'en a tiré Guillaume Hermaine, la nature, les animaux qui sont les principaux protagonistes du livre. Alors, il y a 4 autres morceaux.
Mais oui, il y a le suivant, le 5e, s'appelle Solitude et il est logiquement confié à une voix solo a cappella. Donc toute seule, désincarnée en quelque sorte. C'est vraiment très intéressant et très étrange. Et puis la 6e section, qui est intitulée Visitors, donc visiteurs, habitée par un duo que prolonge encore un autre long silence très impressionnant. Et puis la 7e partie s'appelle The Bean Field, c'est le champ de haricots, qui reprend un élément de la séquence initiale des murmures, très bizarrement, et qui évoque cette fois une sorte de plainte modulée par une série d'impressionnants crescendo et décrescendo. Et enfin, le 8e et dernier épisode, c'est The Village, le village, et donc c'est le seul qui s'ouvre sur le texte anglais lui-même de Thoreau, donc très clairement énoncé et immédiatement traduit en français d'ailleurs, pour qu'on sache vraiment de quoi il s'agit. Et donc c'est un texte explicite qui dénonce un gouvernement qui soutient l'esclavage. Et puis c'est un choral d'enfants d'une touchante fraîcheur qui conduit irrémédiablement au silence de la nuit, de la nature, non violée en quelque sorte. C'est vraiment une pièce très impressionnante.
Oui, oui, tout à fait. On peut voir effectivement un hymne à la nature, au retour à la nature dans l'œuvre de Thoreau, mais aussi il faut y voir un pamphlet contre le mode de vie occidental tel qu'il était déjà au milieu du 19e siècle aux États-Unis. C'est le début de la révolution industrielle. Et bon, Thoreau a vu des choses que d'autres de ses contemporains n'avaient pas encore vues à l'époque. Mmh. Et c'est pour ça qu'il est aujourd'hui évidemment extrêmement actuel. On va écouter un second extrait de Walden Voices. C'est le 7e et avant-dernier morceau. Et il est intitulé, vous l'avez dit, Serge, The Bean Field, autrement dit en français, le champ de haricots.
Fires. Fires. Great.
très étrange Binfield, le chant de haricots, septième morceau de Walden Voices, l'œuvre de Guillaume Hermaine enregistrée par le chœur Les Éléments, ou plutôt par deux chanteuses du chœur Les Éléments, est donc paru tout récemment sous le label Éole, un CD que vous pouvez vous procurer sur le site web des Éléments. Peu de concerts donc en ce début d'année, mais il faut tout de même signaler ce que donne l'Orchestre de Chambre de Toulouse les 8 et 9 janvier à Saint-Pierre-des-Cuisines et les 10 et 11 à l'Escale de Tournefeuille. Selon le principe des concerts mensuels de l'Orchestre de Chambre, tous ont le même programme et celui-ci a été sobrement intitulé Strauss, histoire de prolonger un peu l'ambiance des valses viennoises propres à la période du Nouvel An, Serge.
Oui, alors il y a une série de deux concerts pédagogiques, donc, qui sont donnés le lundi 8 et mardi 9 janvier à l'Auditorium Saint-Pierre-des-Cuisines à 14h30 avec des œuvres de Offenbach, Mozart, notamment l'ouverture de la Flûte enchantée, Mendelssohn, alors ça c'est intéressant parce qu'il y a la 10e symphonie pour cordes, une œuvre de prime jeunesse de Mendelssohn, et puis Johann Strauss avec la valse des hirondelles et les messagers de la paix, puis de nouveau alors du fils Strauss, valse de l'empereur, le beau Danube bleu et Pizzicato, polka. Voilà pour cette série de deux concerts pédagogiques. Et puis, les concerts, disons, du Nouvel An, il y en a également le lundi 8 et mardi 9 à Saint-Pierre-des-Cuisines, mais à 20h30 cette fois, avec pratiquement le même programme, sinon une œuvre que, j'avoue, je ne connaissais pas, une symphonie concertante pour deux altos de Félix Jean Prot,
que je découvre. Voilà une découverte.
Donc, c'est très bien. Et ça sera donné donc à la fois le 8 et le 9 janvier, donc à 20h30 à Saint-Pierre-des-Cuisines, et le 10 et 11 janvier à l'Escale.
De Tournefeuille, voilà, c'est la série des concerts mensuels de l'Orchestre de Chambre de Toulouse, voilà. Et tous commencent à 20h30 et vous pouvez acheter et réserver vos places en ligne sur le site www.orchestredechambredetoulouse.fr. Pas d'autres concerts d'ici notre prochaine émission, mais je rappelle une nouvelle fois la parution du CD Walden Voices sous le label Éole, une œuvre pour deux voix et dispositif électroacoustique composée par Guillaume Hermaine, d'après le livre d'Henri-David Thoreau, et enregistrée avec deux chanteuses issues du chœur Les Éléments sous la direction de Joël Subiette. On peut se procurer ce disque sur les sites des Éléments, www.les-éléments.fr, et je pense qu'on peut également le trouver à la FNAC de Toulouse. Tous mes remerciements à Serge Chauzy, plus que jamais fidèle au poste en 2024 comme il l'était en 2023, pour m'assister dans l'animation de cette émission. Merci aussi à Christophe Aubry qui a réalisé ce premier numéro de l'année. Podcast disponible et téléchargeable dès aujourd'hui, comme d'habitude, sur le site web de Radio Présence. Et merci à vous tous de nous rester fidèles chaque semaine. Encore une fois, très bonne année à tous et très bonne année musicale, entre autres. À bientôt !